Le carillonneur, troisième partie, chapitre 6. Dans le beffroi, Borlute retrouva un asile, un domaine de rêve et d'oubli. Il eut à nouveau, toutes les fois qu'il y montait, la sensation de quitter ses chagrins, de se quitter lui-même et de quitter la vie. Le charme ne manquait plus d'opérer. À peine en marche dans l'escalier tournant, il se pacifiait soudain. Dans l'ombre opaque, il ne voyait plus rien de ses blessures intimes. Le vent du large soufflait, descendait à sa rencontre, l'accueillait, lui balayait le visage, l'éveillait à une existence nouvelle, où tout le reste fuyait comme un cauchemar. Chaque jour, maintenant, il s'isola dans la tour. Il passa de longues heures, même quand le service du carillon ne l'y obligeait pas. Ce fut désormais sa vraie demeure, le lieu de son exil volontaire. Quel bonheur qu'on ne lui eût pas supprimé également sa charge de carillonneur. Il serait mort de vivre toujours parmi les hommes. Il était si différent d'eux. Il s'était trop habitué à regarder les choses de plus haut qu'eux, et comme on doit les envisager de l'éternité. Qu'est-ce qu'il imagina donc de vouloir faire régner la beauté ? Sa ville l'avait en quelque sorte banni pour avoir osé prétendre lui imposer son idéal et ne pas penser comme elle. Aujourd'hui, il était seul. Mais il goûta, dans l'isolement, une espèce d'ivresse, une volupté sombre. Est-ce que le beffroi n'était pas seul aussi au-dessus des demeures ? Le beffroi était plus grand qu'elle, parti plus haut à la conquête de l'air. En y montant, Borlute s'élevait aussi haut. Il devenait lui-même le beffroi, s'en entourait comme d'une armure à sa taille. Solitaire joie de l'orgueil, qui surplombe et regarde au loin. L'automne revenait, l'automne qui étend de brouillard en Flandre. Borlute s'en réjouit. C'était plus d'isolement encore dans la tour, de nouveaux rideaux s'épaississant autour de lui et lui cachant la vie qu'il commençait à abhorrer. Seul, au loin, la nature éternelle, avec son aspect monotone de plaine, d'arbres et de ciel, l'attirait encore, communiquait avec lui. Quant à la ville, disséminée au pied du beffroi, il ne voulait plus la voir. Il y avait trop souffert. D'ailleurs, il ne la reconnaissait plus, déjà dénaturée par des architectures fausses, des innovations modernes et le péché de sa vanité qui croissait en elle. Bruges était en proie à d'autres. Elle le quitta, comme Godelive. Heureusement que le brouillard d'arrière-saison tombait à présent sur toutes ses amours finies. Borlute s'enfonça dans un double isolement. À la prison de pierre s'ajouta la prison de brume. Il ne fut plus captif que de l'horizon. Tout s'unifiait en une abdication de soi, une fusion molle et résignée. Les troupeaux de moutons, fréquents dans la campagne, ne parurent qu'un peu plus de vapeur agglomérée sur un point et qui va se dissoudre. Même le soleil s'anémia, prit la couleur de l'étain, disparut dans des tulles diaphanes. La ville aussi, enveloppée d'une buée, recula, s'amincit, se décolora, cessa d'être. Elle se résuma en quelques fumées, montées des toits invisibles et qui renoncèrent dans la brume, affluent docile. Borlute participa de l'unanime effacement. Les brouillards d'automne et les fumées l'envahirent aussi, tandis qu'il en épiait, du haut du beffroi, les jeux silencieux. Tout s'estompa, s'embruma, s'abolit en lui. À peine dans les plaines pâles, des moulins émergeaient, croix noires, ayant l'air d'exorciser la brume, qui s'en écartait, reculait, avait peur. Borlute souvent fit voyager ses yeux de moulin en moulin, compta ses croix. Elle lui rappelait les croix de la procession des pénitents. N'étaient-ce pas les mêmes, dispersées ? Elles jonchaient tout le pays, conduisaient jusqu'à Fumes, qu'on devinait là-bas, vers l'ouest, près de la mer, qui toujours miroite à la ligne de l'horizon. Borlute chercha Fumes, il chercha Dixmude aussi. Le visage de Godelive revint, perça le brouillard. Pourtant, l'automne s'achevait. Les moulins eux-mêmes pâlirent, s'identifièrent avec la brume. Le rappel des croix noires cessa, et tout souvenir. Borlute, dans ce temps-là, vécut atone et résorbée, sans regret comme sans espérance, seule, durant des heures entières, dans la chambre de verre du beffroi. Similitude de l'âme et de la saison. Ne joua plus que des musiques pâles. Ce furent des sourdines, des notes blanches, couleur de la brume elle-même, des sons incolores, comme si les cloches étaient droites et s'effeuillaient. Une chute lente de flocons et de laine cardée, l'éparpillement en duvet de l'oreiller d'un doux enfant qu'on n'a pas eu. Chapitre 7. Ce que Borlut avait prévu arriva. Seule sa direction maintenait une unité, une discipline. Il avait commencé à accomplir ce miracle de l'esthétique d'une ville. Sitôt qu'il fut démissionné, le sacrilège d'art commença. Celui qu'on nomma en son remplacement était un obscur et ignare architecte qui devint un instrument docile du caprice des échevins. Borlut sentit que tout son rêve était fini. C'en était fait de la beauté de Bruges telle qu'il l'a conçue, une et harmonieuse. Chaque jour, les dissonances s'accrurent, les profanations, les anachronismes, les vandalismes. La ville abdiqua. La mode des restaurations s'était universalisée, mais plus du tout dans le sens où Borlut les avait inaugurées. Au mal de négliger et de laisser dépérir des façades anciennes, succéda le mal, non moins grand, de les trop rajeunir, réparer, modifier, orner et refaire. En réalité, on les reconstruisait. C'était des bâtisses neuves, la parodie du passé, un fac-similé des vieilles architectures, comme on en voit dans les reconstitutions archaïques, en béton et toile peinte, des expositions. Un goût de netteté et de propreté sévit. On voulut des briques bien roses et bien neuves, des châssis de chêne clair, des sculptures évidentes. Il ne fallait pas ces vagues visages, têtes d'anges, de moines, de démons, qui surnagent à peine, sont un peu rentrés dans les murs au long des siècles. Il ne fallait pas davantage cette poussière noire, ces verres patines, ou cette enluminure faisant d'âge des pierres. Les habitants se voulurent des demeures vraiment remises à neuf. Manie barbare, parallèle à celle de faire gratter, repeindre, revernir les vieux tableaux. En même temps, des monuments curieux disparurent, dont les propriétaires entendaient tirer meilleur parti. Des quartiers pittoresques furent modifiés. La face d'une ville change si vite. On démolit, on reconstruisit, on combla des cours d'eau, on installa des tramways. Oh, cette horreur du bruit, des sifflets, de la vapeur et des hoquets, défigurant tout à coup la noblesse du silence. Unanime profanation, sauvagerie utilitaire du temps moderne. Sans doute que, ici aussi, on allait créer des rues droites, des communications abrégées. Surtout si le projet du port de mer aboutissait, ce serait pire. Déjà, d'après le plan soumis, il était avéré que la porte d'Ostende disparaîtrait. Logis et tours si décoratifs, fermoirs savoureux de pierres antiques qui bouclaient la ceinture des remparts. Elle serait sacrifiée à l'alignement vers les nouveaux bassins. Déjà en 1862 et en 1863, on avait abattu ainsi la tour de Sainte-Catherine, puis celle de la Bouverie, survivante des neuf tours qui, à l'origine, montaient la garde, annonçait dès le seuil le règne de l'art. Maintenant, c'était la fin. Et Borlut se disait « Elle agonise, la ville du passé, la ville que j'avais faite. Ces beaux murs vont tomber. Tout cela qui fut elle, moi seule je le conserve et le porte en mon âme. D'elle, il ne restera bientôt plus que moi ici-bas. » Borlut pleura sur la ville et sur lui-même. car d'autres tourments le minaient. Barbe ne cessait pas d'être hérissée, véhémente parfois. Il ne la voyait qu'à peine, au repas. Elle s'était mise à vivre tout à fait à part. Elle se cantonna à un autre étage de la maison, tout le second étage qu'elle accapara, de façon à être seule et libre. Par moments, elle avait des caprices de sortie, faisait des courses interminables et ne rentrait qu'à la nuit. À d'autres périodes, elle s'enferma chez elle, s'abîma en de longues prostrations qui finissaient par des crises de larmes, des sanglots aigus. Yoris n'y pouvait rien, se sentant si loin d'elle. D'ailleurs, elle s'était toute reprise. Dès la trahison découverte, elle ne lui appartint jamais plus. Elle éprouva comme une peur, une répulsion physique de lui. Il lui semblait que ce serait elle désormais qui, en se donnant, aurait commis l'adultère. Comme si Yoris avait été davantage à Godelive qu'à elle. Toute œuvre de chair avait cessé entre eux. Borlut se résigna à ce quasi-veuvage, à ce célibat recommencé et sans issue. Comment n'y avait-il pas remédié ? Il récapitula les raisons. Longtemps, malgré les crises, les brouilles, les scènes, il n'avait pu se défendre d'être lié à Barbe, à son corps désiré, à sa bouche trop rouge. Plus tard, après tant de querelles, tant d'offenses qui le lassèrent et le déprirent, il aurait pu la quitter. Mais jamais Barbe, catholique et violente, n'eût consenti au divorce. Il n'aurait trouvé d'ailleurs aucun grief légal. Plus tard encore, quand il aima Godelive, ce fut l'occasion de tout rompre, de briser son foyer pour en reconstruire un autre, ailleurs. Mais la ville, à ce moment, le retint, son œuvre de la beauté de Bruges, son poème de Pierre, à parfaire, et dont le regret, aussi tenace qu'un remords, partout lui suivit. Enfin, disgracié et libre de ce côté, prêt à partir pour n'importe où, il ne put pas ressaisir Godelive, déjà acquise à Dieu et à l'éternité. Ainsi, tout s'était manigancé sans cesse contre lui. Jamais il ne fut maître des événements et de sa volonté. Aujourd'hui, il lui paraissait superflu de quitter Barbe. Où irait-il, sinon dans plus de solitude ? Il se sentait incapable de rien recommencer. Il était là. Sa destinée était manquée, irrémédiablement. Ici, du moins, le beffroi lui restait, offrant son inaliénable asile. Plus que jamais, il fréquenta l'escalier en grisaille, la chambre de verre, les greniers du silence, les dortoirs des cloches. Bonne cloche, jamais assoupie, sûre confidente, amie consolatrice. Seule, la cloche de Luxure, de nouveau, l'enfiévra. Il l'avait presque oubliée, mais elle le guettait. Elle assaillit sa longue continence, tentation des seins revus, dardant leurs pointes, toutes durcifiées dans le métal, comme d'un éternel désir. Et celle des croupes aussi, nerveuses, arquées sous le baiser. Toute la folie de la chair l'obséda. Il chercha dans le bronze l'orgie exacte, les détails. Il y prit part, il vécut dans une débauche immobile. Il se rappela l'ancien émoi. Quand la cloche obscène lui révéla son amour sensuel pour Barbe. Combien il avait rêvé de son corps, encore inconnu, en regardant sous la cloche, comme il aurait regardé sous sa robe. Cloche pleine de volupté, qui était la robe de Barbe. Il y brisa sa vie, à cette robe froide de Barbe, dure comme le bronze, et qui n'offrait aussi que l'apparence de la passion. Un simulacre figé de plaisir qui n'aboutisse pas. Ô maléfice de la cloche de Luxure. Du moins la seconde fois, Yoris se méfia. Il en eut peur quand il aima Godelive. Même, il défendit qu'elle en approchât le jour où elle était montée avec lui dans la tour. Maintenant qu'il était vacant d'amour, il appartint à toutes les femmes de la cloche. C'est à lui qu'elles s'offrirent. Il vécut dans un tourbillon de bouches et de seins. Son visage se pencha pour mieux voir, approcha du bronze qui, glacé, lui donna la sensation d'une brûlure, comme s'il avait baisé des chairs en feu. Il connut tous les péchés. Dans ce temps-là, quand il redescendit de la tour, il lui arriva d'errer longtemps par la ville, tard. Un désir de chair l'énervait. Les scènes obscènes de la cloche l'accompagnaient, se réalisaient en images grandies et vivantes. Il s'attarda à des flâneries dans des ruelles équivoques, vers les faubourgs. Il guetta une rencontre inopinée, une fenêtre éclairée, que quelques femmes en mal d'amour ouvriraient peut-être. Tout ce qu'on fait à 20 ans dans le premier tourment de la sève. Il suivit des mentes, espéra des étreintes anonymes, la minute des sens qui contient tout l'oubli. Chapitre 8. À s'isoler, à fuir sans cesse dans la tour, Borlute ne goûta plus que la mort. Du haut du beffroi, la ville apparaissait plus morte, c'est-à-dire plus belle. Les passants s'effaçaient, les bruits cessaient en route, la grande place s'allongeait, grise et nue, les canaux reposaient, leurs eaux n'allaient nulle part. Ils étaient veufs de tout bateau, inutiles aussi, et semblaient posthumes. Au long des quais, les demeures étaient closes. On aurait dit que dans chacune, il y avait un mort. Impression funéraire, unanime. Borlute exultait. C'est ainsi qu'il voulut Bruges. Naguère, il ne se voit à restaurer, éterniser toutes ces vieilles pierres qu'avec la conscience et la joie de sculpter son tombeau. Le carillon lui-même, il l'ambitionna et l'accapara pour mieux célébrer et annoncer la mort de la ville aux horizons. Maintenant encore, quand il jouait, promenant ses mains sur le clavier, il se faisait l'effet à lui-même de cueillir des fleurs, de les arracher avec de durs efforts à des tiges résistantes, s'obstinant quand même, complétant sa moisson, saccageant le parterre des cloches, et alors défeuiller des corbeilles pleines, des bouquets de son, des guirlandes de fer sur la ville au cercueil. Ne fallait-il pas qu'il en fût ainsi? C'était la beauté de Bruges d'être une morte. Du haut du beffroi, Borlute la voyait tout à fait morte. Il ne voulut plus redescendre. Il l'aima davantage et sans fin. Ce fut désormais pour lui comme une frénésie, comme une dernière volupté. De monter sans cesse au-dessus de la vie, il se mit à jouir de la mort. Danger de s'élever trop haut, air irrespirable des sommets, châtiment du dédain de la vie. C'est pour cette raison, sans doute, et pas un sûr avertissement de l'instinct, qu'il avait cru, quand on lui remit la clé du beffroi le jour du triomphe, prendre en main la clé de son tombeau. Dorénavant, quand il s'en revint de la tour, il eut l'impression de sortir de la mort. Quel ennui de revivre! Et la laideur des visages humains, l'hostilité des rencontres, la sottise et les vices affichés. Le carillonneur, de plus en plus, erra, désemparé. Il ne sut où aller, n'ayant plus rien à faire, incapable de décider quelque chose ou de vouloir. Il s'ennuyait de la vie reprise, comme Lazare ressuscité et encore engourdi du linceul. Ses pas s'embrouillèrent. Il trébucha au pavé, comme s'il avait cheminé parmi des accidents de terrain d'un cimetière. C'est que, en effet, descendant de la tour, il continuait à marcher dans la mort. Chapitre 9. Tout à coup, la ville se pavoisa. Des télégrammes étaient arrivés de la capitale, annonçant que la Chambre venait d'adopter enfin le projet de Bruges-Port de Mer. Plus d'espoir, plus d'atermoiement possible. Les millions nécessaires étaient votés. L'œuvre de destruction pouvait commencer. Aussitôt, une allégresse courut par les rues, un air de fête et de dimanche, une joie propagée de la foule, inconsciemment heureuse que le règne de la beauté allait finir. Il fallait se réjouir publiquement, remercier le pouvoir par une démonstration imposante. Une affiche signée du bourgmestre et des échevins fut aussitôt placardée, conviant pour le soir toutes les sociétés de la ville à former un vaste cortège avec musiques et flambeaux en même temps que la population était priée de sortir ses drapeaux et ses lampions. L'heure du rendez-vous sur la grande place était 8 heures. Borlut fut avisé qu'il serait de service à partir de la même heure. La cloche du triomphe, suspendue à un étage inférieur de la tour, sonnerait tout le temps, ne cesserait pas dans l'air sa grande chevauchée héroïque. Le carillon aussi ferait entendre ses sonneries, tout un concert qui devrait durer aussi longtemps que le cortège. Borlut d'abord s'indigna, se désola. Il était vaincu, décidément. Ses efforts, sa longue campagne, n'étaient parvenus à rien entraver. Dans ce parlement, où seule une étroite politique règne, personne ne parla au nom de l'art. L'intérêt électoral avait prévalu et tout se consomma. Bruges, enfin, avait renié sa gloire de ville morte. Et maintenant on exigeait de lui, accablé, des chants, de la joie, une communion avec l'aveugle liesse populaire. Le carillonneur pensa refuser, démissionner plutôt sur le champ que de monter au beffroi, s'épuiser au clavier durant des heures et faire s'égosiller en son guet ses nobles cloches, tandis que lui, et elles aussi, auraient pris le deuil dans leur âme. Mais il craignit les reproches de Barbe, redouta le désemparement des lendemains, quand il n'aurait plus le refuge de la tour, les dortoirs de cloches, où aller un peu rendormir ses peines. Vers l'heure fixée, il ascensionna au beffroi. C'est la première fois qu'il y montait le soir. Le gardien des halles lui remit une lanterne et il se mit à gravir les marches. La sensation était plus étrange encore que durant le jour. Avec la lumière diurne, il s'était si habitué qu'il montait presque machinalement, entraîné comme dans un tourbillon calme par l'escalier tournant. Maintenant, avec l'obscurité de la nuit, superposée à l'obscurité de la tour, c'était des ténèbres pires. On ne sentait plus, tout au bout, le blanchissement de l'air entré par une meurtrière, par une fente de la maçonnerie. Borlut trébucha, dut céder de la corde lisse qui sert de rampe et pend un peu flottante, enroulée au pilier de l'escalier, comme un serpent à un tronc d'arbre. Le feu de la lanterne éclaboussait les murs. On croyait voir, çà et là, des taches de sang. Des bêtes fuyaient, qui avaient toujours vécu parmi les ténèbres, et imaginaient cette lueur, le tonnerre lui-même, entrer dans la tour et dans leurs yeux. Toute l'équivoque du clair-obscur régnait. Le carillonneur voyait son ombre le précéder, puis aussitôt le suivre, se déplacer, monter au mur, s'écraser au plafond concave. Son ombre était folle. Est-ce que lui-même continuait son ascension raisonnable? La réalité revint. Tandis qu'il approchait de la plateforme, ruissela par l'escalier comme par une écluse, la rumeur d'eau de la foule sur la place. Le carillonneur se rappela la même rumeur déjà entendue le jour du concours public quand il triompha. Ce jour-là, il avait imposé son âme à la foule. Il lui fit comprendre l'art, la mélancolie, le passé, l'héroïsme. Il la transsubstantia. Il vécut lui-même en elle. Aujourd'hui, elle allait vivre en lui. Lui imposer son âme à son tour, c'est-à-dire son ignorance, sa trivialité, sa cruauté. La grande place était déjà envahie. Le cortège s'organisait, allait se mettre en marche. Toi-beau eut de musique, de bouquets, de torches, de bannières. Les orphéons, les cercles de sport, les associations politiques, la ligue du port de mer, toutes les sociétés se succédaient avec une décoration, une cocarde ou un brassard. Quelque emblème collectif pour caractériser chaque groupe. les inventions les plus baroques florissaient. Les membres du cercle Saint-Christophe portaient des chapeaux lumineux dont chacun représentait une lettre de façon à promener un chronogramme de fête. Ceux des sociétés de gymnastes étalaient leurs vareuses aux laideurs du costume de bain, portaient des cannes, armes ridicules, qu'ils tenaient brandies et marchaient au pas. Le cercle des vélocipédistes suivait. Les machines ornées de lanternes vénitiennes, quelques-unes transformées en bateaux pour allégoriser les futurs navires et la prospérité du port. Toute la vulgarité, l'imagination médiocre de la foule éclatait. Le carillonneur se navra du haut de la tour. Où en était la ville morte? Une kermesse déshonorait le cimetière. Qu'en disaient les nobles cygnes? Borlut imagina qu'il n'y en avait plus un seul sur les eaux plombées des canaux. Ils avaient fui, sans doute, s'étaient réfugiés vers la banlieue pour ne pas savoir, sauver un peu de silence, pleurer dans le cœur des nénuphars. Tout à coup, Borlut, penché une dernière fois pour voir, pour se rassasier de toute la désolation, fut choqué d'une anomalie plus inconvenante, éprouva une douleur plus personnelle. Il distingua la confrérie des archers de Saint-Sébastien, représentée par un assez grand nombre de ses membres, et qui humiliait sa vénérable bannière, ses médailles et ses insignes portés par le roi du tir, tout son passé de 5 siècles dans ses risibles saturnales. Pourtant, la Gilde avait longtemps combattu contre le port de mer. Au surplus, Borlut était encore son chef-homme, et il aurait été décent de ne pas publiquement le désavouer et lui manquer d'égard. La vieille confrérie, à son tour, abdiquait, reniait le passé et la ville, adhérait au vil idéal. Borlut en éprouva sa dernière blessure. Désormais, il était bien seul. Il ne voulut plus rien voir, rien entendre des choses vulgaires qui s'accomplissaient à terre. Il se jeta vers sa besogne, plongea ses mains au clavier comme à la mer. Il joua. La cloche du triomphe sonnait déjà. Elle ouvrait la route. Elle tanguait dans l'air. Toute la flottille des notes du carillon suivit, s'espaça, vola dans le vent et les étoiles. Le carillonneur joua avec frénésie pour ne plus rien percevoir des scènes de la rue. Il convoqua à son jeu toutes les cloches, les plus grosses qui d'ordinaire n'interviennent que pour ponctuer une mélodie, comme les moulins ponctuent une plaine, jusqu'aux plus petites, les infimes, les enfantines, dont le babil de moineaux fit un nuage de bruit. Un concert criard où rien ne s'entendait plus. Vaste orchestre, unisson final. Le beffroi vibrait, craquait comme si toutes les cloches, trop réveillées des sommeils séculaires, avaient décidé de fuir ailleurs, de quitter leur solive, les monotones dortoirs. Et déjà, dégringolaient dans l'escalier de la tour. Le carillonneur s'exaspéra. Il frappa des pieds et des mains le clavier, se pendit aux tiges de fer qui soulèvent les battants, actionna les cloches jusqu'au paroxysme, et vécut ainsi, comme dans une bataille de son bruit contre le bruit d'en bas. Épuisé, il lui fallut s'arrêter quelques minutes entre 2 morceaux. Les cris remontèrent, la rumeur d'eau, l'aigre folie des fanfares. Le cortège continuait sa course bruyante, promenait ses paillettes, ses sottises, son serpent colorié, sa funèbre gaieté d'arlequin dans le dédale obscur des rues. Cela dura plusieurs heures. Le carillonneur ne cessa pas de jouer, résigné, narguant lui-même l'ironique sort de faire chanter des cloches, d'asperger la ville d'air joyeux, tandis que son rêve avait agonisé en lui. Aujourd'hui même. Il songea aux comédiens qui, parfois, sont obligés aussi d'amuser le jour où leur enfant est mort. Quand il rentra chez lui, tard, Borlut se heurta à un drame. Personne ne s'était couché. Les servantes, encore toutes en émoi et tremblantes, erraient comme des folles. Il y avait dans le vestibule des pierres, des débris, des éclats de verre. Elles lui racontèrent que, après le cortège, certains groupes avaient continué à circuler par la ville. On les entendait venir, entonnant des chants flamands, excités et un peu ivres déjà. Or, l'un d'eux, en passant devant la maison, se mit à faire retentir des clameurs, des sifflets aigus, mille injures et malédictions. De fortes voix crièrent « À bas Borlutte !» Ils étaient nombreux et disciplinés. Sans doute qu'ils avaient tout prémédité, obéissaient à un mot d'ordre. En même temps que leurs cris, on perçut tout à coup un bruit strident, le cliquetis clair de toutes les vitres qui se crevaient, tombaient à terre, s'émiettaient. Une nuée de pierres avait volé à la même minute, traversa les carreaux, entra dans toutes les chambres, brisa des objets et des miroirs, sema de débris la demeure. Borlutte regardait, consterné. On aurait dit que la guerre avait passé. La maison semblait en ruine. Il soupçonna tout de suite une vengeance de Pharazine, qui, depuis le refus de Godelive, depuis surtout l'opposition au port de mer dont il fut le promoteur, n'avait cessé de lui témoigner une haine militante et acharnée. Ça avait été facile, cette fois, d'ameuter contre lui quelques groupes populaires, en le représentant comme l'ennemi public, le mauvais citoyen, qui faillit faire avorter le projet dont on fêtait aujourd'hui le glorieux vote. Barbe apparut en tempête au haut de l'escalier. Yoris, pour éviter une scène devant les domestiques, pénétra dans un des salons du rez-de-chaussée. Il y avait des pierres, des éclats de verre, partout. On avait même jeté des ordures. Barbe entra, livide. Sa bouche trop rouge eut l'air d'une blessure, comme si elle avait reçu une pierre au visage et saignait. Elle était échevelée, les cheveux lui battant le dos, en houle irritée. « Vois encore ce qui nous arrive. C'est ta faute. Tu t'es conduit comme un fou. » Yoris comprit son état, les nerfs en branle, la terrible colère blanche qui menaçait. Il put se contenir, essaya de s'esquiver, de gagner la porte. Elle, plus impatientée encore par son calme, qui n'était que de l'indifférence et du dédain irrévocable, s'élança, le saisit au bras, lui cria dans la figure « J'en ai assez, je te tuerai !» Yoris avait déjà entendu une fois l'horrible parole. Excédé, il se dégagea de son étreinte, la repoussa, la rudoya. Alors, elle devint folle, hurla. Toutes les injures recommencèrent, la pluie de cailloux. On aurait dit qu'elle voulait maintenant le lapider réellement avec des mots, après que la foule l'eût lapidé en effigie avec des pierres. Yoris gagna sa chambre. Partout, c'était le même aspect de désolation. Par chacune des fenêtres, des projectiles étaient entrés. Il songea à un spectacle analogue, déjà contemplé, se rappela la pièce de l'ancienne querelle, la pièce dont Barbe, quand elle découvrit la trahison de Godelive, brisa aussi la glace et les meubles, celle où on ne rentra plus et qui demeura en état, comme la chambre du mort. Toutes les pièces aujourd'hui étaient pareilles à celles-là. Le mal fut contagieux, peut-être. Le mal de l'une appela le mal des autres. Voici qu'elles étaient, toutes, des chambres de mort. Elles étaient toutes mortes. La maison entière était morte. Borlutte aussi voulut mourir. Il semblait qu'il eût reçu l'ordre des choses. Aussitôt, il sentit qu'il était décidé, sans rémission. La mort elle-même lui avait fait des signes, le relançait chez lui. Les pierres étaient venues à sa rencontre, les pierres homicides. La foule l'avait condamné à mort, enfin. Il acquiesça, d'un cœur vaillant, et sans nul délai surtout. Il était prêt et se livrerait, dès le lendemain, à l'aube. Il ne voulait plus revoir, dans la lumière du soleil, sa demeure profanée et comme en ruine, tous ses miroirs fendus, se redisant d'une chambre à l'autre le mauvais présage, ni non plus retrouver Barbe, qui avait comblé la mesure de sa méchanceté ou de son détraquement en le violentant. Cette fois. parmi les pires offenses et menaces. En ce moment, il l'entendait au-dessus de sa tête, à l'étage supérieur, rouler des malles, vider des armoires, recommencer ses projets ou ses simulacres de départ, comme elle en avait l'habitude après chaque scène. Yoris écouta les bruits à travers le plafond, arpenta sa chambre, s'exalta, se mit à parler tout haut. « C'est moi qui partirai le premier, et pour le voyage, d'où on ne revient plus. Je suis là, jusqu'au bout, j'en ai assez. Demain serait encore une journée horrible, de nouvelles scènes avec Barbe, ou sa fuite sans savoir où, comme une égarée, et le désordre étalé, les pierres, ces ignobles souillures partout, et des ennuis, des formalités de police et de justice. » Et tout autour, le rire sauvage de la ville quand on apprendra la nouvelle. Non, je me sens incapable de vivre encore cette journée, à aucun prix. Je serai mort auparavant. Yoris raisonnait, était redevenu très calme. Il s'étonna même que sa détermination ait été si nette et si rapide. Sans doute qu'il la couvait dès longtemps. Depuis toutes ces dernières semaines, il jouit trop de la mort en montant dans la tour. Ce fut comme l'initiation, un pressentiment, l'ombre déjà sur lui du but dont il approchait. Maintenant, il allait le toucher. Quelle paix soudaine se fit en lui, dès qu'il se décida. On possède par avance la destinée qu'on a choisie. On est déjà ce qu'on sera. Yoris entra dans la sérénité de la mort. Il récapitula sa vie. Il se remémora des choses lointaines, des épisodes d'enfance, les caresses de sa mère, quelques détails, ce qu'on revoit dans un éclair à la minute où on meurt et qui résume nos jours. Il songea aussi à Godelive, unique aube un peu rose, revécut les doux commencements, leur mariage secret dans l'église. L'église. Il revit Dieu tout à coup. Dieu lui apparut, devint son interlocuteur, son témoin, presque son juge. Yoris se défendit. Il croyait en Dieu, mais en un Dieu sublime, non pas le Dieu des gens simples qui leur défend de se tuer parce qu'ils le feraient sans discernement, mais un Dieu toute intelligence et qui comprendrait. Il adora, s'humilia, retrouva des prières effacées, mosaïques un peu éparses, et qu'il rejoignit. De nouveau, il pensa à Godelive. C'était l'heure de supprimer ses lettres, dernier souvenir, relique conservée, sachet de consolation gardé jusqu'ici. Il les relut, évoqua le passé, connut l'arrière-goût des baisers, l'odeur fantomale des fleurs séchées, la lie des larmes, toute cette tristesse incluse des vieilles lettres, dont l'encre est pâlie et semble elle-même retourner au néant. Puis il les déchira, les brûla. Plus rien ne l'unissait à la vie. Maintenant, puisqu'il fallait mourir, nul scandale. Une mort invisible surtout, qui fut comme une disparition. Si on pouvait ne pas retrouver son cadavre, est-ce que le beffroi n'était pas le plus propice endroit ? Il comprit à présent tout à fait pourquoi, quand on lui en remit la clé le soir du concours, il eut la sensation de prendre en main la clé de son tombeau. Son âme savait déjà. Son âme frissonna à cause du signe qui créait l'irrévocable. Dès cette minute, sans doute, sa destinée fut arrêtée. La tour devenait, par avance, un tombeau, où il aurait à s'agiter quelques jours avant le grand repos. Donc, mourir là d'abord. Et puis, un moyen propre, pas de sang, ni arme à feu, ni couteau. La corde fait son œuvre en silence, et elle est plus sûre. Yoris en chercha une, l'examina froidement, éprouva sa solidité, puis la mit en poche, pour s'éviter le lendemain, à l'aube, une hésitation ou un débat nouveau avec lui-même. Et, fixé, il attendit l'apparition du jour, paisible et fort, déjà un peu vengé, satisfait de léguer des remords à Barbe, à la ville. Heureux surtout de mourir dans le beffroi qui en allongerait, durant l'avenir, un geste de reproche, une ombre plus sombre, vraiment l'ombre d'un tombeau sur la place grise. Chapitre 10. L'aube naquit, hésita, gagna le ciel, verdâtre et triste. Dès qu'il fit clair, Borlut sortit de sa demeure, furtif, afin de n'être point entendu ni entravé, mais ferme dans son idée. Le beffroi s'était tout de suite dressé devant lui, tour implacable qui est visible au bout de toutes les rues. Le beffroi attendait, il appelait. Borlut ne chercha aucune échappatoire. Il prit même le chemin le plus direct. Il longea un quai, un pont. Bruges reposait. Tout était vide, terne, muet, grelottant encore de la nuit pluvieuse. Mélancolie d'une cité nue à l'aube. On songe à une épidémie où tout le monde a fui. On pense à la mort. Borlut s'achemina. Il ne s'intéressait plus à rien, pas même à la ville qu'il avait aimée d'un si vivace amour. Il la traversa, déjà indifférent à elle, comme à un pays qu'on quitte pour toujours. Il ne regarda rien, ni les façades, ni les tours, ni les reflets dans l'eau, ni les vieux toits dénuancés. N'est-ce pas étrange qu'on soit si vite dépris de tout ? Comme la vie apparaît vaine quand on est proche de la mort. Arrivé au beffroi, il entra dans la tour avec l'aube, livide comme elle. L'escalier frissonna. La lumière descendit au-devant de l'homme qui montait. Et ce fut comme la rencontre, la dernière lutte de l'ombre et du jour. Borlut ascensionna. À chaque marche gravie, il sembla quitter un peu plus la vie. Commençait davantage à mourir. Il ne pensait plus à rien, ni à Barbe, ni à la ville, ni à lui-même. Il ne songeait plus qu'à l'acte. Cependant, l'ascension lui parut longue. Un froid glacial régnait. L'odeur moisie des murs empira. Il eut l'impression qu'on a dans un cimetière. On entendait des bruits, des vols aveugles cognés au plafond. Et aussi un glissement humide de bêtes qui n'errent que la nuit, rentrées vite dans quelque trou obscur. Toute une vie occulte et pullulante rampa, vola, s'englua autour de Borlut, comme si déjà il sentait la mort. Une peur lui courut sur la peau, réelle comme un attouchement. Sa chair frissonna, tandis que sa pensée demeurait résolue. Et calme. L'instinct s'éveilla, protesta, louvoya plutôt, ne mettant en question ni les événements ni les raisons décisives. C'est son adresse de ne discuter que le fait matériel, à accomplir ou à ne pas accomplir, mais uniquement pour des motifs physiques. Ruse habile de l'instinct qui fait hésiter le désespéré au bord du canal par l'aversion pour l'eau trop froide, et qui, ici, suggérer l'horreur des passages visqueux en route pour le festin du cadavre. Borlut frémit. Il eut sa minute de défaillance, sa sueur d'agonie du jardin des olives. Il s'arrêta dans une grande angoisse. Mais l'escalier tournait rapidement, ne fit pas grâce, n'offrit aucun relais et l'entraîna aussitôt dans ses spirales brèves. Borlut continua. Toujours décidé, mais fléchissant dans sa chair. Encore un peu, il trébuchait. Malgré sa grande habitude des marches, qu'il était arrivé à gravir presque machinalement, comme s'il cheminait de plein pied, il dut céder du câble qui sert de rampe et pend autour du pilier de l'escalier, comme un serpent autour d'un arbre. Serpent de la tentation. La corde, en effet, le tentait de nouveau, en supposant qu'il eût hésité. Ne l'avait-il pas choisi pour l'instrument de sa mort ? Maintenant, repris à la corde, c'est comme s'il était repris à son idée, quitté un moment et vite ressaisi. Ses mains faiblirent, s'écartèrent. Elles repoussèrent l'affreux contact. Mais l'escalier se creusait en un tourbillon rapide. L'ombre était dense. Il lui fallut quand même céder de la rampe. La corde réapparaissait, s'imposait. Borlut se reconquit, monta vers l'accomplissement. Ce n'est plus la corde qui l'aidait, qui le menait. C'est lui qui entraîna la corde, la porta, semble-t-il, au sommet. Il arriva dans la chambre de verre, jeta des regards distraits sur le clavier, immobile et comme mort, sur l'horloge minuscule, fixée au mur, faisant là son bruit d'humble vie régulière, en accord avec le vaste cadran. Avait-il été lui-même autre chose dans la tour que ce petit battement d'un pouls humain? Il regarda à peine. Déjà, ses yeux étaient occupés ailleurs. Il venait d'avoir une illumination subite, trouvant enfin les détails de l'acte qu'il n'avait pas voulu prévoir, escomptant la dernière minute. C'est en songeant aux cloches, les grandes cloches, qu'il voulait revoir, appelées par leur nom dans les dortoirs, caressées d'un adieu de la main, elles qui furent les amies graves des puits de consolation, les tombes sûres de ses douleurs. Si l'une d'elles, maintenant, était la tombe de son corps, oui, il choisirait une des vastes cloches. Il y a un anneau à l'intérieur, tout au fond, où s'attache le battant. C'est là qu'il fixerait la corde, très courte. Ainsi, il disparaîtrait tout entier dans le gouffre obscur, où personne ne le découvrirait durant longtemps, ni jamais peut-être. Joie de finir au fond d'une de ces cloches qu'il aima tant. Laquelle choisirait-il? Les grandes cloches se trouvaient au dernier étage, à la plateforme où on accède par un petit escalier final de quelques marches, 13 seulement. Il songea au chiffre fatidique au moment où il allait s'y engager. Mais cette fois, il n'hésita plus, entra résolument dans le nombre qui garde la mort. Il avait hâte. Les grandes cloches apparurent. Elles surplombaient, éternelles inquiètes. Un frémissement sans fin y grondait. Borlut revit la cloche de Luxure. Il la regarda, comme son examen de conscience. Elle avait été le péché des cloches, et le péché de sa vie. Pour l'avoir écoutée, il s'était perdu. Il avait cédé à la tentation de la chair, au piège de la femme. Il aima des corps au lieu de n'aimer que la ville. Et pour avoir trahi son idéal, il n'en verrait pas l'accomplissement à cette minute où il allait mourir. Il songea à la fin extasiée de Van Hull. « Elles ont sonné !» Lui ne verrait pas la beauté de Bruges réalisée, puisqu'il ne l'avait pas poursuivie exclusivement. Ce fut la faute de la cloche obscène qui toujours l'obséda. En ce moment même, elle l'appelait. Elle voulut le tenter encore, et au pire. La corde est comme une amante. Elle fait la mort elle-même, voluptueuse. Qu'il meure donc parmi sa robe de bronze, mêlée à l'anticorchie. Borlut eut horreur, se détourna. La cloche auguste qui sonne l'heure s'offrait, un peu plus loin, immense, ténébreuse, muet abîme qui l'absorberait tout. Il sentit que c'était le but et hâta les préparatifs. Calme, pensant à Dieu, minutieuse et prompte, bourreau de lui-même. Et il entra dans la cloche, comme la flamme dans l'éteignoir. Ce jour-là, le lendemain, tous les jours suivants, le carillon tinta, le jeu automatique des hymnes et des heures recommença, tout le concert aérien s'envola, en guirlanda de mélancolie les âmes nobles, les vieux pignons, le cou blanc des cygnes, sans que personne ait senti, parmi la ville ingrate, qu'il y avait désormais une âme dans les cloches.